Avant de vous présenter les intervenants de la soirée, nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Ambassadeur Nerys Alexiounas et Austes Dantchoute. Et je prends aussi cette occasion pour vous remercier très 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 chaleureusement pour tout. Et je laisse peut-être la parole à vous, Monsieur Ambassadeur.
Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir d'être ici. Je voudrais vraiment remercier Bulak pour cette soirée dédiée pour la Lituanie. C'est un vraiment grand plaisir d'être avec vous. Et pour moi, c'est la première visite ici, mais je pense que nous avons déjà discuté qu'il y a plusieurs des idées, comment on peut continuer cette coopération. Et surtout, bien sûr, un grand remerciement pour Miglé. Je pense que c'est Miglé est coupable pour cette soirée et pour peut-être une grande découverte aussi de notre collection dans les réserves de Bulak. Et pour moi, c'est aussi un petit exemple comment la Lituanie parfois est peut-être projetée ici en France, parce qu'il y a beaucoup de choses liées avec notre pays, mais pas très connues pour le public. Et comme c'était aussi cette petite recherche de Miglé pour trouver la collection de Gibuntas Mikšys et pour découvrir bien sûr des éléments très très intéressants entre la Lituanie et la France. Pour moi, c'est vraiment cet exemple que la culture, que l'art lituanien projette ici en France. Mais comme vous avez mentionné, cette année, c'est qu'on a la capitale européenne de la culture, mais aussi nous avons un grand projet pour 2024, quand la Lituanie fera la saison culturelle de Lituanie en France. Et je suis sûr qu'on va revenir aussi avec des événements dédiés pour la saison culturelle, parce que, bien sûr, Inalco et Bulak, c'est vraiment comme une méca pour les Lituaniens, pour les liens entre la Lituanie et la France, et aussi notre histoire. Et bien sûr, c'est un grand plaisir d'avoir notre meilleur écrivain de Lituanie qui habite ici en France. Mais avec Valdas Papievis, c'est un toujours grand plaisir pour moi pour rencontrer. Ce n'est pas la première fois que je parle avant la discussion avec Valdas Papievis. C'est toujours difficile de trouver quelque chose de nouveau à dire sur Valdas. Mais pour moi, c'est aussi un métier personnel. Nous avons passé déjà une fois sur le côté du Seine pour vraiment parler sur la culture et l'art lituanien. Et cette petite promenade sur la Seine avec Valdas, c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, je pense que Valdas, c'est vraiment le meilleur lien entre la Lituanie et la France. Et cette discussion, cette soirée, présentation du livre, qui, je pense, tous les livres de Valdas anticipent un peu le futur. Donc, comme c'était avec l'écho, la situation avec COVID. Donc, j'espère que le prochain livre de Valdas sera très positif sur la paix, sur. Et ça sera l'inspiration pour les événements à venir. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et on va profiter tous de la présence de Valdas avec toute l'équipe pour la discussion. Bonne soirée.
Bien, nous vous remercions vivement, Monsieur l'Ambassadeur, pour ces mots si chaleureux, pour votre présence ici, ainsi qu'à toi, Austé. Ça nous fait très plaisir d'être ici avec vous et avec vous tous. Alors, pour présenter nos intervenants, déjà, pour préciser les choses, la rencontre de ce soir est intitulée « Valdas Papievis, de l'autre côté du temps ». Nos intervenants vous proposeront une lecture de quelques extraits des deux romans de Valdas Papievis suivants, Un morceau de ciel sur terre, traduit en français par Caroline Paliolis et publié en 2020 par les éditions Le Soupirail. Et en avant-première, un extrait de Écho, actuellement en cours de traduction, qui sera publié en février prochain par les éditions Le Soupirail. C'est Valdas Papievis qui lira ces extraits en lituanien et son éditrice, Emmanuelle Vialamoisan, qui en lira la version française. Les deux protagonistes de cette conversation littéraire sont Valdas Papievis et le critique littéraire Éric Dussert. Valdas Papievis, vous êtes un exilé volontaire, si on commence ainsi la présentation. Depuis 1992, vous avez fait le choix de vivre à Paris. Et c'est dans la capitale, à la fois dans la capitale française et dans la région du Luberon, que se déroulent respectivement vos romans Écho et Un morceau de ciel sur terre. Cet éloignement ne vous a pas empêché de gagner en reconnaissance et en notoriété en Lituanie, et en particulier au cours de cette dernière décennie. Vous occupez désormais une place de premier plan dans votre pays, où votre œuvre, notamment composée à ce jour de 8 romans, a été couronnée de prix importants. En 2016, vous receviez le prix national de la culture et des arts en Lituanie, la plus prestigieuse distinction dans le domaine des arts et de la culture. L'année précédente, votre roman Odile Arba Oro Uostu Vienatve, mais tu corrigeras peut-être. En français, Odile ou la solitude des aéroports, non encore traduit en français, figurait sur la liste du prix du livre de l'année et était sélectionné pour le prix du livre le plus créatif de l'année. Et last but not least, votre roman Haïti, Marché, un morceau de ciel sur terre en français, s'était vu doublement récompensé en 2011 par le prix du livre le plus créatif et le prix du meilleur roman lituanien de l'année. Je t'en prie.
Alors, je reprends la parole et je présente le monsieur Éric Dussert. Vous êtes critique littéraire, éditeur et auteur. Vous collaborez notamment au Matricule des Anges, à la Quinzaine littéraire, Quinzaine, et à la Revue des Revues. En tant qu'éditeur, vous êtes spécialisé dans l'édition de textes littéraires oubliés, notamment dans le cadre de votre collection L'Alambic, d'abord publié aux éditions L'Esprit des Péninsules, puis à l'Arbre Vengeur. Vous avez également initié une double série de portraits d'écrivains oubliés aux éditions La Table Ronde, et Une forêt cachée et cachée par la forêt, ce dernier volume s'intéressant exclusivement à des femmes écrivaines oubliées. Dernière précision.
Je te laisse. Je peux le dire. Je continue.
Ça sera moi qui assurera la traduction de lituanien vers le français si besoin pour notre écrivain Valdas Papievis. Cher Valdas Papievis, nous vous écoutons pour ce premier extrait de Un morceau sur cette. Un morceau de ciel sur terre. Merci. Je vous passe la parole. Merci.
Merci infiniment et belle rencontre à tous.
Ši tuštuma tai ėjimas be tikslo. Ši tuštuma tai eiti, kad eitum. Ši tuštuma tai vienišiaus ėjimas ten, kur tavęs niekas nelaukia, bet tau ir nereikia, kad tavęs kas nors lauktų. Santarvė su pasibaigusia diena ir artėjančia naktimi tuštuma. Ji liesis iš po besileidžiančios saulės labai lietai sukamo vakaro kupolo, tartu milžiniškos bažnyčios skliautai, tave pilnatvės palaima užliejančia, kaip iš tuštumos gali išsiskleisti pilnatvė. Apie tai nesusimastys, iš vis negalvos apie nieką, norėsis tik eiti ir eiti, ir niekada neprieiti. Eiti tai mano namai, jie tikresni už namus, turinčius pamatus, stogą ir sienas. Namai turintis pamatus, stogą ir sienas yra tariami, te reikia sustoti, įsikurti ir prarasti namus. Namuose galima būti, bet negalima juose įsikurti. Jie tik laikinas prieglobstis. Tikrieji tavo namai eiti. Eiti ir eiti. Eiti be galo. Iš juos tavo namus niekas nepasikesins. Jų niekas sugriauti, nesudegins negali. Ir tu juose nepasiekiamas. Tu juose, kaip ant akiračio linijos tupintis paukštis, nutolstantis tiek, kiek taikiklis prie jo priartėja. Žingsniai tarsi vinis plaktukų galvoje kals. Ir kelyje, o ir paskui, kai žengsi miestelį, kai aikštė praėjęs, vingiuotom gatvėm ims sūktis. Kai pamatys, kad užuot sūkęs vingiais, stačiais laiptais gali tiesiai užlipti, kai jais lips, kai užlipęs viršun, nestaptelėdamas praeis pro bažnyčią, kai slinks palei panoraminį vaizdą veriančią akmenų tvorą, ir kai, lygu nuo parapeto regėjo šitą miestuką, iš vis dabar jau toli, toli, dunksanti markizo de Sado kaimelį, stačia olų įstraižinė, link pilies kopianti ir plenta, iš kuriuo atėjo iš ten. Kol pamatęs neįtikėtinai palačiai, išsišakojusi kedra, po juos įsės. Ir iš vakaro palaimos įsilies neįsipilnimo gėlą. Prieš jį atsivers tokios nepriepiamos, milžiniško kedro šakų gaubiamos platumos, jog akimirksni net galvas vaiktels ir pasidingos, kad jos palaima ir neįsipildymo gėla liejasi viena iš kitos ir viena į kitą, tarsi būtų begalybės supynių supuojamos, ką tik iš palaimos įsiliejo neįsipildymo gėla, taip iš neįsipildymo gėlos liejas palaima, neįsipildymo gėla liejas palaiman, o palaima neįsipildymo gėlon. Jos neiks viena kitą, ir tuo pat sikiu, viena kitą papildydamos, skleisis kita iš kitos, nepasiekiamos tolios, nuvilnėjančiais pilnaties raibuliais, iš paskos ilgus nuolidus takus tiesiančius. Bet tai bus ir širdį dilgantis, ir džiugus liudesys, tos retos akimirkos, kai pasaulį laiminanti ranka, viską sugaubė į vieną ir tave, kaip erdves prieš akis įsidėjusias, tos pačios dangiškos supynės ima supuoti. Ir sities ant pentinio soliuko, švininio nuovargio apsunkintų kūnų, pajaus jo šurkštų kietumą, girdės balsų žmonių, jį iš tolo aplenkiančių. Šimtamečio kedro šakos, plačiai, plačiai išsikerojusios, pro jas atsiveriantis tamsėjančio dangaus lopinėliai, juos pradedančios akyti pirmosios žvaigždės, kasnakt diksniuojamas dangaus siuvinys, visą laiką tas pats ir visą laiką kitoks, išbluksiantis priešaušrio šviesoje, vakare iš naujo pradėsimas, ir taip iki laikų pabaigos nič niekas nepasikeis. Ir kol čia dar esi, ir kai nebebūsi, o dabar patylėk ir užsimerk, įsiklausyk į tylą, į tylą ir nieką, dabar tik klausykis.
Ce vide, c'est cette marche sans but. Ce vide, c'est marcher pour marcher. Ce vide, c'est la plus solitaire des marches, vers là où personne ne t'attend. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un t'attende. Communion entre le jour qui s'achève et le vide qui s'approche avec la nuit. Il se répand de la coupole du soir, tournant très lentement après le coucher du soleil, comme la voûte d'une immense église t'inondant d'un sentiment de plénitude. Comment la plénitude peut-elle jaillir du vide ? Tu ne vas pas penser à ça, de toute façon. Tu ne penseras à rien. Tu voudras juste marcher et marcher et ne jamais arriver. Marcher, c'est ma maison. C'est plus vrai qu'une maison avec des fondations, un toit et des murs. Une maison qui possède des fondations, un toit et des murs est suspecte. Qu'il te faille t'arrêter, t'installer, et tu perdras ta maison. Tu peux être dans une maison, mais tu ne peux pas t'y installer. C'est un abri provisoire. Ta vraie maison, c'est marcher. Marcher et marcher. Marcher sans fin. Personne n'empiétera sur cette maison. Personne ne la détruira. Personne ne la brûlera. À l'intérieur, tu es hors d'atteinte. À l'intérieur, tu es comme un oiseau posé sur la ligne d'horizon. Tu t'éloignes à mesure que le viseur se rapproche. Ses pas sont comme des clous martelés dans sa tête. Sur le chemin, et après, quand il pénétrera dans le village, quand il aura passé la place, et qu'il commencera à marcher dans les ruelles sinueuses, quand il verra qu'au lieu de passer les tournants, il pouvait monter tout droit par des escaliers hauts, quand il les gravira, quand arrivé tout en haut, sans s'arrêter, il passera à côté de l'église, quand il ira lentement le long du muret en pierre s'ouvrant sur un paysage panoramique, et quand, tout comme il avait vu cette bourgade depuis le parapet, il verra maintenant déjà loin, loin, se dessiner le village du marquis de Sade, ascensionnant la pente raide de la roche en direction du château, et aussi la route par laquelle il était venu. Jusqu'à ce qu'ayant aperçu un cèdre aux branches prodigieusement étendues, il s'assoira dessous. Et de cette béatitude du soir s'épanchera la douleur de l'inaccompli.
Bonsoir. Valdas, je vais commencer à vous passer à la question. J'avais prévu, après cet extrait, de vous poser des questions sur la marche, mais on y arrivera assez vite. Je voudrais d'abord commencer par faire une toute petite citation de vous qui va me permettre d'asseoir une première interrogation. Ainsi, j'imagine que c'est la littérature, dites-vous, qui peut capter toutes ces nuances les plus parfaitement. Pour résumer, ce sont les métaphores qui le peuvent. Pardon. Et vous, dans cette phrase, vous interrogez ce que peut la littérature. Et j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous fait avancer en littérature, justement.
Oui. Bonsoir. Oui. Si je savais exprimer ce que je veux en parlant comme ça, je n'écrirais pas. Et je voudrais parler tout d'abord de ce que me présente la littérature. Quand je n'arrive pas à écrire, je me sens abandonné. Non, pas ce soir. Merci d'être venu. Je suis très heureux de vous voir ici. Mais c'est vrai, quand je n'arrive pas à écrire, je me sens abandonné par moi-même, par le monde. J'ai l'impression de vivre à moitié. Il me semble que les objets, les phénomènes, les lieux, les événements, même mes propres pensées, mes émotions, mes sentiments glissent à côté de moi sans me toucher vraiment. Peut-être ça ne se voit pas, j'espère que ça ne se voit pas, mais quand je n'arrive pas à écrire, j'éprouve une sorte de mal de vivre. Pour moi, l'écriture, c'est un état particulier, exceptionnel, j'oserais dire un peu existentiel. L'écriture rime forcément avec la solitude. Une vraie écriture comme je la considère, demande de descendre dans son fort intérieur, de pénétrer dans les profondeurs les plus intimes de soi-même. Mais paradoxalement, quand j'écris dans une telle solitude absolue, il me semble que le monde s'ouvre à moi plus que jamais, avec tous ses horizons et avec toutes ses nuances les plus subtiles, pour que j'accède à ça, j'ai besoin de beaucoup d'heures d'oisiveté. Flâner sur les quais de la Seine ou dans les rues de Paris, contempler par exemple un verre de vin à la terrasse d'un café, ou rester enfermé chez moi pour regarder le plafond. Je sais que l'impulsion d'écrire peut venir à n'importe quel moment et de n'importe où. Je peux dire que je la guette comme un chasseur guette une bête sauvage. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de trouver la première phrase, de composer le premier paragraphe. Le rythme s'installe petit à petit et ensuite c'est lui qui me guide, aussi bien que l'écriture elle-même. Je me lance à l'aventure et je ne sais pas où elle m'amènera. Paradoxalement, c'est pas paradoxalement, mais c'est toujours comme ça. Petit à petit, le rythme commence à s'installer, le sujet commence à se développer. Une séquence en provoque une autre. La composition s'installe progressivement, mes personnages commencent à vivre leur vie et je ne sais jamais à quoi ça va aboutir. Je fais confiance au rythme et à la langue. Très souvent, la langue me fait découvrir ce que je ne savais pas exister en moi-même. Les métaphores de l'écriture peut être l'errance, mais c'est une errance sur la corde. Un somnambule a de la chance. Quand il tombe, il sait au moment même qu'il est tombé. Quand on écrit, on ne sait jamais. Peut-être il est possible que tu sois tombé de ta première phrase. Et qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que se dire, j'écris pour moi-même. Mais après avoir terminé, quelle envie de partager avec au moins une personne. Encore une fois, merci d'être venu.
Je profite de la pause pour poser une deuxième question, parce que j'ai remarqué que vous utilisiez souvent un parallèle entre la topographie des villes, la syntaxe et la typographie. Vous avez ce jeu de métaphores qui s'imprime aussi de manière un peu métalittéraire dans vos textes. Mais ma question va porter sur un autre point, c'est que vous faites partie...
Pour répondre à cette question, pour intervenir,
on va la garder.
Parce que je vais dire que l'écriture et la marche dans ma tête, oui, en moi, se mélange d'une façon mystérieuse, et je peux citer une phrase. Ce trajet est comme une phrase. Pour l'écrire, il ne faudrait mettre ni tiret, ni deux points, ni virgule. Juste un point final, arrivé. Un parcours ininterrompu, sans aucune halte, aussi incompréhensible qu'une phrase sans tiret, ni deux points, ni virgule.
Alors, je poursuis sur ma lancée, la topographie des villes. On parlait de la marche tout à l'heure dans l'extrait qui nous a été lu deux fois. Moi, je vous raccroche très naturellement à la grande tradition des écrivains marcheurs et des poètes marcheurs en particulier, Léon-Paul Fargue, Yves Martin, mais on a aussi Thoreau d'un côté ou Nicolas Bouvier. Vous êtes un arpenteur et vous faites marcher vos personnages. Vos narrateurs, alors sont-ils vous, sont-ils quelqu'un d'autre, vous allez nous le dire. Mais à quel point cette marche est-elle nécessaire, justement? Vous nous avez expliqué que dans votre processus de maturation du texte, elle était indispensable. Mais dans le cadre du récit, que dit-elle de cette exploration du monde?
Marcher, c'est mon... C'est ma maison. Voilà une des phrases que j'ai écrite et que j'aime beaucoup moi-même. Marcher m'englobe, pour moi, englobe tous les mouvements. Et la marche est avant tout est liée à la lenteur. Même dans un train à grande vitesse, on peut marcher lentement. Marcher, pour moi, c'est se réapproprier ce que la vitesse, la course permanente, constante, la course de tous les jours nous enlève. Sortir, pas pour se promener, mais justement pour marcher, marcher sans but, c'est-à-dire errer, vagabonder, aller là où pas les yeux, mais les pieds te mènent. C'est vrai, il est vrai que parfois c'est un peu dangereux. Je me souviens d'un été, d'une canicule, c'était il y a longtemps, oui, il faisait terriblement chaud, et je ne pouvais faire rien d'autre que marcher. Mais marcher, pas n'importe comment. Marcher du matin au soir, sans manger ni boire, en choisissant exprès, délibérément, le soleil plutôt que l'ombre. Oui, c'était une sorte de maladie, ça a duré longtemps. Je ne sais pas si un morceau de ciel sur terre est né. Le titre original est Marcher, est né de cette, disons, maladie. Mais depuis longtemps, je voulais écrire quelque chose sur la Provence. Mais je ne trouvais pas le fil conducteur. Je ne savais pas comment transformer mes expériences que j'avais éprouvées là-bas en Provence de la manière que ce ne soit pas mon journal intime qui n'intéresse que moi-même. Oui, quoi qu'il en soit, j'ai besoin de marcher parfois très longtemps pour pouvoir écrire. Au début, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir écrire. Petit à petit, cette angoisse disparaît. Tout comme cette impulsion d'observer, de se souvenir de tout ce que tu vois autour de toi, ça peut toujours servir pour l'écriture. Pas l'introspection non plus. Parfois, je m'arrête, je regarde autour de moi et je me demande, mais comment se fait-il que tu te retrouves ici? Je ne sais pas. Peut-être quelque chose se cristallise quand je marche comme ça. Peut-être rien ne se cristallise, mais c'est comme ça, j'ai besoin de marcher pour pouvoir écrire. Parfois, il me semble que chaque mon pas, quand je marche, quand j'erre comme ça, c'est une syllabe, mais une syllabe vide de mon livre que je voudrais écrire. Et donc, je n'ai aucune idée.
Je me demandais justement si cette marche, en lisant un morceau de ciel sur terre, je me demandais si cette marche, c'était une quête qui permettait d'observer, en fait, d'attraper des morceaux du réel, ou une fuite. Donc, on peut imaginer donc, que c'est une fuite de l'angoisse de ne pas arriver à écrire, mais vous avez aussi une formidable aptitude à observer, à vous faire le chroniqueur du monde qui vous entoure.
Cette question plutôt porterait sur mon livre qui devrait être publié l'année prochaine, c'est sur Echo. Mais c'est une longue histoire, si vous voulez. Mais...
On va y revenir alors. Peut-être qu'on peut proposer à Emmanuel de lire un deuxième extrait du...
De un morceau de ciel.
Oui, tout à fait.
L'après-midi, le soleil était monté à son zénith, et lui, à plat ventre au sol sans la moindre ombre, il regardait de loin ce pont comme une sentinelle attentive, laissée là jadis, pour attendre le jour où les légionnaires de la Rome impériale reviendraient y marcher. Il pouvait imaginer comme, enveloppés de la poussière qu'ils soulevaient, ils étaient apparus sur la ligne de mire, comme ils approchaient, avec leurs oriflammes flottant sur leurs mâts, au-dessus de leurs longues colonnes, leurs silhouettes d'hommes devenant peu à peu distinctes, ensuite, leur visage, hâlé, tanné par le vent, imperturbable. Car la longueur du chemin, ce même soleil et ces mêmes vents avaient brûlé, balayé tous leurs sentiments. D'autant plus qu'un soldat doit oublier ses états d'âme et obéir aux ordres. Ils pouvaient imaginer comme ils approchaient, si près, que le cuivre des cuirasses de leurs uniformes rouges et bleus commençait à jeter tellement d'étincelles qu'on aurait dit que les vaisseaux de leur rétine allaient se rompre et qu'instinctivement leurs paupières se fermaient, tandis que de l'horizon une ligne de poussière arrivait, glissant comme une plume, projetant une rafale dont la violence était à peine supportable. Ils pouvaient imaginer le pont grondant, tonnant, martelé par la cadence des sabots des chevaux et des semelles cloutées des fantassins, comme le ciel se mettait à vibrer des échos qui y rebondissaient, et comme les hommes, tellement épuisés qu'ils ne sentaient même plus la fatigue, glissant comme une plume au-delà de l'horizon. On aurait dit que le vacarme ayant cessé, ses tympans allaient bientôt éclater. Abasourdi par ce grondement tonitruant, il n'y tenait plus. Il pourrait imaginer, pourtant, il n'imagine pas. Peut-être à cause de la chaleur, peut-être à cause de la fatigue. Sa tête est vide, comme une capsule de coquelicot où le vent a soufflé. Sa mémoire a été effacée par le soleil jusqu'à en être blanche. Seuls quelques noms de lieux restent, pas très clairs. Mais ils ont l'air si étranges, si irréels. Des villes dans lesquelles il n'a jamais été et qu'il ne connaît pas, cela lui semble aussi loin que ces époques qu'il n'a pas vécues. Que cela ait existé ou existe, crois-le, ne le crois pas. Juste regarder. Ça, il le peut encore.
Vous nous direz, Valdas, que signifie pour vous ce pont Julien. Je remarque dans cet extrait, ce fragment, une intensité toute particulière. Votre phrase prend là tout à coup une profondeur historique. Et quand on l'a choisi, cet extrait, je me suis demandé quel était pour vous le poids de la réminiscence dans ce que vous écriviez.
Carl Jung parlait des archétypes collectifs. Moi, je pense qu'il existe aussi une mémoire collective. Et pour la retrouver, il faudrait creuser très profondément dans son port intérieur. Bien sûr, l'intuition peut y aider. L'intuition, c'est comme une pelle dans la main dans un archéologue. Oui, pour moi, c'est très, très bizarre. Parfois, je me demande comment se fait-il que je me souviens de ce que je n'avais jamais vécu et comment se fait-il que j'oublie ce que j'ai écrit moi-même. Oui, c'est vrai, je n'écris plus jamais mes textes après leur publication. Je me souvenais très vaguement de cette scène. Mais par contre, je me souviens très bien de mon état d'esprit quand j'écris cette séquence ou cet épisode. Je voyais tout, j'attendais tout et je sentais tout à fleur de peau. Je crois que c'était une sorte de transe, mais pour moi, oui. Quand j'écris, pour moi, c'est toujours une sorte de transe.
Nous allons parler bientôt de Écho, le prochain roman qui va paraître en France. Mais j'avais encore une question sur le morceau de Ciel sur Terre, qui se présente comme un ermitage, mais un ermitage extrêmement peuplé. On y trouve beaucoup de figures féminines, des œuvres d'art, des animaux, des enfants. Et si je ne fais pas de confusion, également une flûte de pan assez typique de Lituanie. C'est peut-être dans Écho, ça.
Un écho.
Je mélange tout, donc. Cet ermitage peuplé, donc, quel est pour vous son agitation particulière? Quelle est sa vie atomique?
Bon, d'accord. Si c'est un ermitage peuplé, je dirais qu'il est il est peuplé des ombres. Je ne vois que, qu'une seule fois la séparation de mon personnage avec Marie, mais je voulais qu'elle soit toujours présente comme une ombre, comme une sorte de miroir de la tristesse de cet homme sans nom. Après la Provence, là, il y a trois femmes, Anne, Elisabeth, Don. Il s'approche d'elle, il voudrait découvrir le mystère de leur relation, de leur passé, mais il n'ose pas aller trop loin, il n'ose pas franchir les limites, il sent que tout ça peut briser, même si tout est déjà brisé. Et à la fin de mon livre, cet homme sans nom quitte le village. Il sent qu'il a transgressé la ligne rouge. Il a permis à Do d'entrer à la maison d'Anne. Peut-être s'il était resté plus longtemps dans ce village, il aurait découvert le mystère des relations entre Anne et Do. Mais pourquoi faire? Parfois, je pense que parfois, il vaut mieux ne pas savoir.
Ce qu'on remarque aussi en lisant vos deux livres, c'est une grande, des grands accents mélancoliques, un souci de décrire la ruine, la déréliction, et de manifester, par exemple, que tant de beauté, et vous l'exprimez à peu près comme ça, tant de beauté finit toujours par disparaître. Et Est-ce que cette mélancolie, c'est la vôtre, ou c'est celle ou est-ce que c'est le fruit de vos observations, en fait, du monde, du temps qui passe?
Peut-être c'est les deux, mais tous ces trucs, la tristesse, la mélancolie, la solitude. La finitude de nos temps personnels s'intermêle dans ma tête. Je ne peux pas les séparer. De toute façon, la tristesse est toujours liée à la beauté de nos vies, du monde, jusqu'au moment où nous ne gâchons pas tout ça avec nos bêtises. C'est toujours triste. Et d'autre côté, comme chaque beauté, dès qu'elle naît, touche déjà à sa fin, c'est aussi triste. Après, il y a d'autres choses, par exemple, l'inaccessibilité, on peut pas, nous ne pouvons pas réaliser tout ce que nous voulons. C'est impossible. C'est aussi un peu triste aussi. Et ensuite, il y a la solitude. Si on parle de la solitude, Oui, nous sommes très différents par nos physiques, par nos caractères, par nos rapproches avec soit avec nous-mêmes et avec les autres. Mais je pense que si nous descendions dans nos forts intérieurs, les plus profonds, nous trouverions le même, les mêmes angoisses, les mêmes envies, les mêmes joies, etc. On peut continuer jusqu'à l'infini. Ce qui nous sépare, à mon avis, ne sont que des registres, des tonalités, des nuances, et bien sûr la manière dont nous maîtrisons ce que nous trouvons dans nos ports intérieurs. Et tout de même, la solitude existe. Elle existe sous plusieurs formes, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la solitude existentielle qui ne dépend d'aucune circonstance, que tu sois à New York, que tu sois à Vilnius, que tu sois à Paris ou à la campagne lituanienne. Elle peut transpercer comme une ortie. C'est une impossibilité, l'impossibilité de se rencontrer. Chaque rencontre, au moins pour moi, c'est une rencontre un peu ratée, parce qu'il restera toujours du soif de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été fait. En fin de compte, la dernière ligne que nous sépare les autres, nous ne la traversons jamais, même au moment les plus intimes. Je crois que tous mes personnages, oui, je ne crois pas, c'est vrai, sont solitaires, même quand ils sont parmi d'autres. Oui, ils observent, ils parlent, ils réfléchissent, ils éprouvent des sentiments, mais comment franchir le seuil qui te sépare de l'autrui, de la nature, de tout ce qui est autour de toi, même de toi-même. Il faudrait briser la glace, mais où se trouve-t-elle?
Où se trouve le marteau? Plus vous parlez, plus je pense à un écrivain français qui s'appelle Luc Dietrich, qui a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur des tristes, que vous connaissez sans doute. Et je trouve qu'il y a une espèce de solitude métaphysique, ou une métaphysique de la solitude qui se ressemble beaucoup chez vous deux. Je voulais qu'on, si vous voulez bien, qu'on parle des rapports de... puis on passera une lecture ensuite, mais des rapports de la ville et de la nature, ou en tout cas de votre façon de vivre en ville, comme dans les steppes. Je crois que vous l'avez écrit comme ça. C'était une vie de vagabond. Nous vivions dans la ville comme dans les steppes. Racontez-nous ça. Comment vit-on en ville comme dans les steppes?
Peut-être cette image vient de ma ville natale. Je suis né en Lituanie, dans une petite ville, dans une rue, même pas goudronnée, juste à côté de notre maison, il y avait un terrain vague. Nous, les enfants, y jouions tous les jours, du matin au soir. Il y avait là-bas aussi un tas de pierres. Donc, nous nous baptisions les troncs. Nous ne savions pas que nous ne serions jamais plus les rois plus grands que dans notre enfance, mais nous ne savions non plus que c'était non seulement notre âge de pierre, mais aussi d'or. Et beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Maintenant, je vis à Paris. Peut-être une des raisons pour lesquelles je vis à Paris est celle-ci. Vilnius, pour moi, est devenu trop petit. Je ne suis pas grand de taille, comme vous voyez, mais même à Vilnius, à Paris, je me commence à sentir un peu serré. Je voudrais vivre dans une agglomération encore plus grande, rien que pour disparaître, pour être un anonyme dans la foule. Mais si on parle des villes, oui, elles sont très belles, surtout quand l'avion commence à s'atterrir à Vilnius, à Paris, à Los Angeles, et que tu vois toutes ces lumières, c'était beau, c'est si beau. Mais de l'autre côté, je me rends compte que ce ne sont que des plaies que notre civilisation laisse sur le corps de notre planète. La beauté est toujours triste.
Et elle finit par disparaître. Emmanuel, je pense qu'on peut lire un passage du prochain livre à paraître, qui s'intitule Écho.
Peut-être juste dire pour les personnes que Écho, donc c'est le prénom d'un chien dans le roman, et qu'on a gardé l'écriture lituanienne, et qu'évidemment ça a plusieurs sens aussi dans le roman, mais c'est pour la lecture du passage. Comme un voleur, gagnant de plus en plus d'expérience et d'assurance après chaque cambriolage, j'ouvrais les portes avec toujours plus d'intrépidité. En arrêt sur le pas de la porte, à distance, je parcourais la pièce du regard, puis j'en faisais le tour, examinant les tableaux et les photos accrochées au mur, les assiettes en porcelaine, les têtes d'animaux empaillées, les pendules. Puis, comme si j'avais apprivoisé cette pièce, j'en touchais les meubles, les secrétaires, les tables, les armoires et les tables de nuit, je ne sais de quel style, les accoudoirs des fauteuils et des canapés, leurs dossiers. Pour finir, j'osais tirer les tiroirs des commodes, ouvrir les boîtes à bijoux et fourrer dans ma poche une bague, un bracelet ou une chaîne. Je me souviens de m'être figée devant un grand miroir et m'être saluée. Je ne me sentais ni voleur, ni propriétaire. En écrivant mes initiales sur la glace poussiéreuse, je pensais que toutes les normes de la morale appartenaient au passé. Comme dans cet appartement. Ce n'était pas seulement ces vieux meubles et ces bibelots d'une autre ère qui paraissaient démodés, mais aussi ces appareils inventés à notre époque technologique, téléphone portable, ordinateur, téléviseur. J'ai aussi écrit mes initiales sur leurs écrans. Je voulais laisser le signe que j'avais été là, ou peut-être dire que j'étais venu le premier. et que cette demeure abandonnée désormais m'appartenait. Probablement ni l'un ni l'autre, je pouvais tout avoir, mais il ne me fallait plus rien, même plus ma propre personne. Un matin, dans une chambre à coucher, ayant tiré les doubles rideaux en velours d'un geste large, pendant que la lumière d'un jour de plus inondait la chambre, j'ai pensé que ces initiales étaient des épitaphes que je m'écrivais à moi-même. Sûrement par peur que je le laisse, Écho me suivait de près. Quand je m'arrêtais, il s'asseyait à mes pieds. Finalement, épuisé par ma curiosité morbide d'essayer de reconstituer, grâce aux photos, lettres, objets, ustensiles ménagers, les vies qui avaient déserté cet appartement, je me suis effondrée sur le parquet et je l'ai serré dans mes bras. Peut-être tout haut, ou peut-être dans ma tête, je lui ai dit, « Écho, je ne te quitterai pas, même si je le voulais. Je ne pourrai pas te quitter. Penses-tu qu'on puisse se quitter soi-même ?»
En lisant Écho, justement, Emmanuel signalait que le nom du chien avait plusieurs sens dans le livre. Je me suis demandé, moi, si ça n'avait pas un rapport avec Écho, avec, en italien, le Lecce Homo, de Ceci est l'homme. Est-ce que ce chien, que représente-t-il ?
Dans la vie, tout devient Écho. Ensuite, finalement, l'écho disparaît. Il ne reste que des échos. C'est le premier sens. Mais quand j'ai baptisé ce chien Écho, je n'avais pas dans ma tête des connotations particulières. Tout simplement, une de mes amies a un chat qui s'appelle Écho. on peut dire que j'ai adopté son nom, si on peut adopter les noms. C'est seulement après que je me suis rendu compte que ce pourrait être aussi l'écologie, parce que je parle de la nature, oui, d'autres connotations, par exemple, celle que vous venez de mentionner.
Oui, parce que je crois qu'on trouve dans le livre, quasiment à la fin du livre, un Christ de la pitié. De même que dans un morceau de Ciel sur Terre, on avait non pas les brigands de Bruegel, mais les mendiants, les six mendiants de Bruegel, oui. comme des phares qui revenaient dans le livre. Ce qui est frappant dans les deux livres qu'on peut aborder en langue française, c'est le double phénomène très récurrent de vos expressions de la répétition des jours et parallèlement la répétition chez vous de l'expression d'un sentiment profond d'étrangeté. Et est-ce que cette répétition des jours et ce sentiment d'étrangeté ne sont-ils pas un peu paradoxaux en réalité ?
Peut-être, pour moi, c'est deux choses différentes. Oui, étrangeté. Parfois, je me demande d'où vient le thème des réfugiés dans Écho, peut-être parce que moi-même, je me sens un peu immigré dans ce monde. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas vers où je vais être, c'est toujours être, ça veut dire toujours être, être de néant sans savoir faire ce que nous faisons ici et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Oui, c'est peut-être c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les états que j'appelle les états être entre. Ça concerne mes propres états, mais aussi le temps et l'espace. J'aime les moments où le soleil commence à se lever, mais le matin n'est pas encore là. Le moment où le soleil commence à se coucher, mais la nuit n'est pas encore tombée. Oui, et c'est pourquoi j'aime vivre à Paris. Mais je ne pourrais pas dire que je vis à Paris. Je vis entre Paris et Vilnius. Être entre Paris et Vilnius, pour moi, au moins, c'est un peu vivre nulle part dans un certain sens. Et l'autre, j'ai oublié.
C'était le sentiment d'étrangeté.
C'était ça.
La répétition des jours et le sentiment d'étrangeté. Vous exprimez souvent cette notion de répétition, d'usure. Vous parlez notamment des habitudes qui nous écrasent. Enfin, vous ne dites pas qu'elle nous écrase, qui nous enferme, il me semble.
Oui. Qu'est-ce que c'est que les habitudes? Ce sont les rituels, nos rituels de tous les jours. Elles facilitent nos vies, mais en même temps, elles nous étouffent. Je crois qu'il est un peu dangereux de s'installer dans la vie de tous les jours. Pour moi, m'installer dans l'écriture, de ne pas s'installer dans les habitudes ou dans l'écriture, ça demande des efforts, d'imagination, etc. Et, bien sûr, nous avons tous besoin de la stabilité, de la sécurité. Nous créons nos vies comme nous créons nos maisons avec la fondation, avec les murs, avec les toits. Ce que je veux dire, c'est assez simple. Pour moi, de ne pas s'installer dans la zone de sécurité, c'est garder l'ouverture d'esprit, de garder l'étonnement d'un enfant contre ce face à ce monde, de se permettre d'aller vers l'inconnu, parfois, se permettre d'aller tout simplement faire des bêtises. S'il n'y avait pas une seule goutte de folie dans ce monde, comme il serait à New York. Je pense que le plus grand ennui dans ce monde, c'est la nuit même.
Et avant de passer aux questions hein, que vous allez être autorisé à poser à Valdas, j'avais une dernière question concernant la musique. Vous parlez de la musique des films de Wong Kar-wai, et je me demandais quel était votre rapport à la musique. Parce que quand il s'agit de la langue, on l'entend très bien, et en particulier quand vous le disiez en lituanien. Mais quelle part de votre vie occupe la musique ?
La musique et l'écriture, oui. J'ai déjà dit que je guette l'impulsion d'écrire partout et tout le temps. Et je sais que n'importe qui, n'importe quoi peut la déclencher. Et un soir, j'étais chez une amie. Elle a mis le disque du film de Wong Kar-wai. Et c'était, pour moi, c'était un déclic. Je lui ai emprunté ce disque. Le lendemain matin, chez moi, j'ai mis la musique le plus fort possible. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai vu un grand nuage d'orage s'approcher et ça a donné la première phrase. J'ai capté le rythme, pas celui de la musique, mais de mon écriture. Et ensuite, c'était ce rythme qui m'a guidé pendant de longs mois de l'écriture. Mais ce n'est pas nécessairement forcément la musique dont j'ai besoin pour écrire. Par exemple, quand j'écrivais Odile ou La solitude des aéroports, j'avais plutôt besoin du silence.
Mille, je vous laisse, pardon, je vous laisse la parole.
Alors, on va passer aux questions, du coup. On juste retrouve un microphone qui fonctionne. Parfait, ça arrive. On a le microphone, parfait. Alors, donc, est-ce que nous avons des questions ? C'était si profond et si riche, je comprends que c'est compliqué de trouver des questions. Ah bah voilà, Auster.
Bon alors, attaché culturel. Non, mais en fait, j'ai beaucoup aimé votre conversation, je voulais dire. Je ne sais pas, je me suis vraiment laissée à la poésie de Valdas, ou enfin, je sais pas, ça m'a bien touchée, je pense, cette conversation. Et en fait, je me disais, c'est quand même très profond, c'est vrai, de tout ce que tu nous as dit. Et en fait, je voulais, ça m'intéresse beaucoup, donc
En fait, la position d'Emmanuelle, donc l'éditrice de Valdès, Maison d'édition Le Soupirail, en fait, j'aimerais entendre quelle est ton position par rapport à cette écriture et ce monde, en fait, que j'imagine qui s'ouvre pour toi, qui est un peu peut-être loin, je ne sais pas. J'avais juste un sentiment que c'est tellement profond et c'est tellement touchant que c'est peut-être comment on peut rendre ce texte accessible, en fait. Peut-être, est-ce que dans la littérature que tu as dite, il y a aussi quelque chose qui va vers ce sens-là ou... Enfin voilà, en fait, je suis très curieuse d'entendre ton expérience en tant qu'éditrice française, parce qu'en fait, c'est toi qui a retrouvé cet écrivain lituanien qui est très bien connu en Lituanie, mais toujours très... comment tu as rendu son texte en fait accessible, sa littérature accessible ici?
Alors, ben en fait, pour répondre à Auster, bon, d'abord, je pense que Valdas est un écrivain à part, quand même, il faut le dire aussi, même lituanien, mais à part. C'est-à-dire qu'il a un monde vraiment très à part littéraire. Après, je crois que Valdas, il l'a dit, les thèmes, ils sont souvent les mêmes, la solitude, l'angoisse, la ville, l'amour, la mort, l'art, enfin, il y a tous ces thèmes de la littérature, en fait, mais il a sa manière très propre de nous y faire pénétrer, notamment par la phrase, par l'écriture. Et bien sûr, je rends hommage au travail de la traductrice, parce que Valdas Papievicz n'est absolument pas facile à traduire. Voilà, et ce n'est pas dû qu'à la langue, c'est dû à son écriture elle-même, à sa précision, au détail, à la musicalité, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. Dans Écho, le prochain donc, roman publié en français, parce qu'en fait, on devait publier Odile hein, avant, et puis finalement, on a décidé de publier Écho, parce que, en premier, je veux dire, parce qu'il avait une résonance toute particulière avec les événements qu'on a vécu, puisqu'Écho a été écrit avant donc, tout le confinement, et il imagine, son personnage principal se retrouve dans Paris qui est déserté, beaucoup de gens ont quitté Paris, la nature reprend ses droits, et il y a une sorte de petite foule de personnages qui va se retrouver, et qui s'interroge en fait, voilà, sur notre humanité aussi, voilà. Je pense que dans l'écriture de Valdas, la poésie, la mélancolie, on a parlé de tout ça. Ce qui est profondément touchant, c'est ce qu'il touche en littérature à l'humanité, vraiment à un profond sentiment d'humanité, de ce qu'est l'humanité en fait. C'est pour ça que ces textes parlent. On dit donc cette marche dans le Luberon, oui, il y a ça, c'est le Luberon, mais c'est bien autre chose, en fait. C'est Paris, mais ça peut être n'importe quelle grande ville. Et c'est pour ça que ça résonne énormément avec des lecteurs qui sont français, mais qui pourraient être d'une autre nationalité, en fait. Voilà. Et ça résonne dans le catalogue avec d'autres écrivains, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je pense que Valdas y connaît un certain nombre d'auteurs qui sont publiés, il a de la sympathie littéraire, en tout cas, il partage des choses communes. Quand on partage la langue, on partage des choses communes. L'écriture, c'est ça aussi, c'est partager un univers, une manière, un regard particulier sur le monde qui nous entoure, et voilà, chacun a sa forme. Et Valdas a une forme très particulière. Après, on peut adhérer ou pas, parce qu'on est souvent dans cette sorte de déambulation où on a l'impression qu'on se perd, mais voilà, il y a des choses qui reviennent, il y a beaucoup de résonances en fait, dans ces textes, historiques aussi, ça a été évoqué, mais ça, c'est un tableau, en fait, voilà. Il fonctionne plutôt, il me semble, hein. Ça c'est mon avis, en tableau, voilà.
Merci beaucoup, Emmanuelle. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ah voilà, parfait.
Je voulais poser la question très simple. Les œuvres de Valdas en Lituanie, elles sont lues par beaucoup de monde et chacun trouve son compte, je dirais, parce qu'on aime beaucoup. Et tous les prix qui étaient décernés à Valdas le montrent. Mais je voulais poser la question de nature simple. À quel lecteur est destiné vos livres ? Est-ce que c'est aux lecteurs lituaniens qui découvrent le monde, la France et errance de lituaniens en France, et aujourd'hui les traductions qui paraissent une après l'autre en France, donc pour les lecteurs français, qui restent œuvres d'écrivains lituaniens en France? Est-ce que cet étrange monde dans lequel erre, vit, survit les personnages, d'où vient cette étrangeté? Parce qu'on n'est pas à sa place ou on cultive cet être ailleurs?
Je crois que j'ai déjà mentionné ou je voulais mentionner que quand j'écris, je ne pense pas à mon lecteur futur. Parce que je ne pourrais pas continuer, poursuivre. Oui, l'écriture, j'ai dit que c'est de marcher sur la corde. Et je ne peux pas imaginer mon lecteur. Je me dis que j'écris pour moi-même. Mais tout de même, après avoir fini, je veux partager au moins avec une personne. Mais quand j'écris, je ne vise aucun lecteur ou lectrice particulière. C'est... Oui, après le texte commencent à vivre leur vie, mais je ne peux plus y rien.
Merci Valdas, merci pour la question. Est-ce qu'on a... Ouais, je crois qu'on a encore une question.
Oui, bonsoir et merci beaucoup pour cette rencontre. Moi, ma question, elle nous fait revenir un peu au début de ce qui a été dit. Je voulais vous demander, vous faisiez un rapport entre l'écriture, l'errance, la solitude. Ma question, c'est est-ce qu'un livre, une fois qu'il a été publié, transforme la prochaine errance, la prochaine solitude vers le prochain livre? Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Non, ça ne transforme rien. Il faut que j'oublie mon texte après sa publication. Il faut oublier pour pouvoir passer à autre chose. J'ai peur de me répéter, mais... Oui, c'est toujours un peu la même chose, mais tout de même, j'essaie d'inventer quelque chose de nouveau, mais c'est un peu, je ne sais rien. Les livres dans ma tête se cristallisent eux-mêmes ou ne se cristallisent pas. Oui, c'est comme ça.
Merci. Ah, voilà, encore une question.
Bonsoir et merci pour cette discussion extrêmement intéressante. Donc, en tant que l'enseignante de grammaire lituanienne de l'INALCO et pour les étudiants de lituanien qui sont dans la salle, moi, je voudrais poser une question un peu plus sur la langue que vous utilisez et éventuellement sur l'existence d'un lien entre une des particularités du lituanien. Madame a dit que c'était une langue précise, avec un rythme très difficile à traduire. Et justement, un des domaines qui nous étonne en tant que francophones, c'est le lexique lituanien, et en particulier le lexique qui concerne la marche. Il y a en lituanien une quantité de verbes qui se traduisent en français par marcher, et on va ajouter des qualificatifs, et on est obligé d'avoir des périphrases en français pour traduire ce petit verbe tout simple, très précis en lituanien. Et je voulais savoir donc s'il n'y avait pas un lien finalement entre cette importance et cette caractéristiques et cette diversité de la marche dans la langue lituanienne et ce que vous en faites dans votre œuvre et ce que vous en faites dans votre vie. Vous avez décrit votre façon de marcher qui est lente, quelquefois sans but, quelquefois vous ne savez plus où vous retrouvez, vous errez. Est-ce que dans votre langue lituanienne, vous utilisez la diversité du lexique lituanien qui existe et parce que là, bon, on a entendu un petit passage avec 80, 80, 80, mais il y a beaucoup d'autres verbes. Et je voudrais savoir à quel point ça peut être présent dans votre langue quand vous écrivez et le lien que ça peut avoir avec l'importance de la marche pour vous dans votre création.
Oui, c'est vrai. En lituanien, pour dire marcher, il y a presque 100 verbe, mais vous savez, j'ai déjà dit, j'écris très spontanément. Je ne cherche pas à faire des trucs techniques. Ça peut concerner les métaphores, les métonymies, y compris le changement de pronom, le changement de temps, futur, passé, présent, ça me vient instinctivement. Je crois que la technique est comme un balai près de la porte de ta maison. Le balai, il se retrouvera dans tes mains quand il sentira que tu as besoin de lui.
Merci. Alors, est-ce qu'on a une dernière question ? Ah, voilà.
Juste une petite question. Alors, cette vocation d'être écrivain, il est né quand tu étais petit, tu rêvais d'être écrivain ou tu avais d'autres rêves? C'est à quel moment que tu as senti que c'est indispensable d'écrire?
Pour moi, c'est toujours étrange quand on me dit que je suis écrivain, je ne suis pas du tout un écrivain professionnel. Vous savez, de nos jours, je suis un oiseau rare. Je ne conduis pas, je n'ai pas de permis de conduire. Je ne conduis non plus, ni ma vie, ni surtout pas mon écriture. Je ne me sens pas d'être un écrivain.
Merci. Est-ce que on a encore des questions ou Non. Non, c'est bon, c'est bon. Bah, merci beaucoup à vous, à Vardas. Merci beaucoup à Harry et merci beaucoup à Emmanuel et merci beaucoup à vous tous.